Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Vincent Dublange. Bonjour Vincent.
Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde.
À la une, Maïdougouri sous les eaux.
Une semaine après la rupture du grand barrage près de la ville nigériane et le déferlement qui s'en est suivi, la situation demeure critique. Le président Tinubu s'est rendu sur place. Une journée de mobilisation de l'opposition ghanéenne aujourd'hui pour demander un audit du fichier électoral. Fichier accusé notamment d'être truffé de doublons à quelques mois de la présidentielle. On est au Gabon dans ce journal pour la prise de fonction hier de l'administrateur provisoire de la Société nationale d'eau et d'électricité. Administrateur provisoire nommé par les militaires en plein scandale de détournement de fonds des anciens dirigeants. Et puis une délégation de Maasai kényans aujourd'hui à Paris à l'UNESCO. Ils protestent contre les évictions autour du parc du Ngorongoro dans le nord de la Tanzanie. Une semaine après, l'eau stagne toujours dans Maïdougouri. Les fortes pluies ont provoqué dans la nuit de lundi à mardi dernier la rupture d'un barrage. L'eau s'est déversée dans les rues de la capitale de l'État du Borno, dans le nord du Nigeria. La plupart des habitants ont pu être évacués. Au moins 40 ont tout de même perdu la vie. Près de 400 000 vivent désormais loin de chez eux. Il y a 30 camps installés dans les environs de Maïdougouri. Hier, le président Bola Tinubu, je vous le disais, s'est rendu sur place. Il a pu constater que si le niveau de l'eau a baissé depuis une semaine, 40% de la cité est toujours inondée et la situation demeure critique. C'est Samuel Jegede du Norwegian Refugee Council, le conseil norwégien pour les réfugiés, qui nous l'a décrit ce matin.
Dans les endroits où je me suis rendu, j'ai vu des familles revenir chez elles afin d'essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Les gens ont perdu tout ce qu'il y avait dans leur maison, du mobilier, de la nourriture. Les inondations ont lieu pendant la nuit et la plupart ont dû partir précipitamment sans pouvoir emporter grand-chose. La majorité des habitations ont tenu, mais à certains endroits, à cause de la pression de l'eau, les murs se sont effondrés. Aujourd'hui, parmi les besoins les plus urgents, il y a évidemment la nourriture, les gens sont partis sans rien, sans même avoir le temps de prendre de l'argent. Nous avons besoin de nourriture et d'eau propre, des kits sanitaires, et puis il faut des tentes et des latrines temporaires pour les gens qui se sont déplacés et sont dans des camps. On se prépare également à l'après-inondation, comme par exemple une éventuelle épidémie de choléra. Avec les inondations, l'eau a pu être contaminée par des matières fécales. Pour l'instant, il n'y a rien, mais vu la quantité d'eau, nous nous y préparons.
Le porte-parole du Norwegian Refugee Council, interrogé par Alexandra Brangeon, le conseil norvégien pour les réfugiés, qui lance un appel à la communauté internationale. Il faut de l'argent, dit le NRC, pour financer la réponse d'urgence à ces inondations. D'après l'ONU, 2 millions de personnes sont touchées par les pluies et les inondations en Afrique. Un bilan humain qui gonfle au Tchad. 487 décès désormais, disent les autorités. Et près d'1 700 000 sinistrés dans 117 départements sur les 120 que compte le pays d'Afrique centrale. Les intempéries qui se poursuivent d'ailleurs au Tchad, cela fait craindre des crues encore plus importantes des cours d'eau. À N'Djamena, le bilan humain est de 13 morts et 61 000 sinistrés pour ces inondations. L'installation des populations s'est faite de manière anarchique dans la capitale. Les réseaux d'évacuation sont soit insuffisants, soit bouchés. Ils deviennent souvent des dépotoirs dans une ville qui n'a pas de dépotoir officiel. C'est ce que nous disait hier l'urbaniste Tobro Ndilbe. Il est enseignant-chercheur à l'université Adam Barka d'Abéché.
Il y a un système de gestion qui doit s'accompagner pour permettre effectivement à ces réseaux-là de pouvoir jouer leur rôle de façon optimale. En ce sens qu'il y a très peu de dépotoirs officiels et les populations n'ont pas d'autre choix que de pouvoir créer ces dépotoirs spontanés à l'air libre avec le contexte climatique fait de vent et de précipitations, d'ouvrages qui ne sont pas totalement couverts également. Donc la somme de ces situations fera en sorte que ces réseaux vont se combler de façon systématique, imposant leur curage à chaque approche de saison de pluie pour pouvoir désengorger la situation.
Et l'entretien complet avec Tobro Ndilbe, enseignant-chercheur à l'université Adam Barka d'Abéché au Tchad, par Nicolas Sur, est à retrouver sur notre site rfi.fr. Radio France Internationale, quasiment 6h35 à Niamey. L'armée américaine annonce la fin officielle de son retrait du Niger. Il s'est déroulé sans complications, a-t-elle dit hier. Le Pentagone avait déjà fermé début août sa dernière base à Agadez, dans le nord. Le département américain de la défense assurait alors qu'il restait une vingtaine de personnes pour le retrait du matériel militaire américain restant. Ce retrait des troupes américaines du Niger avait débuté en mai, après la dénonciation 2 mois plus tôt par les autorités de transition de l'accord de coopération militaire entre les deux pays. Washington et Niamey qui vont maintenant pouvoir parler du futur, c'est ce qu'espérait en tout cas en août dernier le patron de l'Africom, le commandement des troupes américaines en Afrique. Les États-Unis ont encore des objectifs sécuritaires communs avec le Niger, affirmait il y a un mois et demi le général Kenneth Ekman. Un collectif de personnalités interpelle la CDAO pour qu'elle prenne position sur la disparition en Guinée depuis maintenant 2 mois des 2 militants de la société civile, Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Cette attente vis-à-vis de la communauté ouest-africaine, on l'entendra dans 1 heure dans le prochain journal Afrique sur RFI. Eux exigent un audit du fichier électoral. À moins de 3 mois de la présidentielle, les militants du parti d'opposition NDC au Ghana, parti qui a son ticket, hein, président, vice-présidente, candidat tous deux pour le scrutin du 7 décembre, John Mahama et Nahana Jane Opoku-Adgemang. Ils appellent leurs partisans à se mobiliser aujourd'hui. Pourquoi, Christina Okello?
Il y a d'abord la question du nombre d'électeurs. Selon la NDC, le fichier électoral comporte 50 000 électeurs de trop, des électeurs qui seraient même décédés. Autre anomalie, le transfert de plusieurs dizaines d'électeurs vers des bureaux de vote très éloignés de chez eux à leur insu. Le principal parti d'opposition accuse la commission électorale d'avoir falsifié les chiffres afin de favoriser le parti au pouvoir, le NPP, en vue du scrutin présidentiel. Des accusations démenties par la commission. Des accusations de fraude électorale reviennent régulièrement au Ghana depuis 1992, l'année de ses premières élections, et sont portées par toutes les couleurs politiques. Si pour la commission électorale, cette dernière salve et sans fondement, certains observateurs partagent les doutes de l'opposition. Kobi Mensah, analyste, rappelle qu'en avril dernier, plusieurs kits biométriques ont été volés au siège de la commission, des kits censés être sous surveillance et qu'il a fallu plusieurs semaines à la commission pour agir.
L'opposition alerte sur les lacunes dans notre système démocratique et je pense qu'il est consternant de voir que le parti au pouvoir, qui devrait être le garant de l'état de droit, ferme les yeux lorsque des kits biométriques sont volés, des électeurs sont transférés de manière illégale et qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il semble protéger la commission électorale.
Le NDC veut donc mettre la pression sous la commission électorale et prévoir de manifester dans toutes les 16 régions du Ghana.
Les élections municipales à Madagascar qui ont toujours autant de mal à trouver preneurs. Très peu de candidats, 9 dossiers au dernier décompte la semaine dernière sur 1700 postes de conseillers municipaux à pourvoir sur la grande île. La commission électorale malgache propose au gouvernement de donner 1 semaine de plus jusqu'au 26 septembre aux courageux qui voudraient se lancer.
Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, le Conseil national de défense des droits de l'homme s'inquiète de la surpopulation carcérale. On entendait hier à ce sujet les préoccupations de l'association ACAT Côte d'Ivoire. Ce matin, écoutons directement celle du CNDH. Même si le ministère ivoirien de la justice conteste les chiffres, la surpopulation carcérale et notamment l'usage répandu des détentions provisoires qui durent est évident. C'est ce que nous dit maître Danyogo Makaya, directrice des requêtes et investigations au CNDH.
Le constat est que depuis des mesures prises, du passage en revue du code de procédure pénale, allant dans le sens de prévoir dans le code, dans le dit code, des mesures alternatives à l'incarcération, la population carcérale ne cesse d'augmenter. Alors le CNDH, dans son rôle de conseil, demande à ce que le gouvernement revoie à la hausse les effectifs des magistrats, qui est aujourd'hui loin du ratio population magistrat. On est aujourd'hui à 1 magistrat pour plus de 38 000 en termes de population. Donc du coup, ce que le magistrat pouvait faire dans les années précédentes, c'est pas évident qu'au regard des dossiers qui prennent du volume, il peut pas donner, en dépit de sa bonne volonté, il peut pas le faire. Donc cela pourrait justifier le fait que des dossiers peuvent durer en instruction, par exemple.
Propos recueillis par Binta Diagne. Au Gabon, les délestages d'électricité continuent. D'après les explications officielles, le manque d'eau dans les réservoirs des barrages hydroélectriques est à l'origine de ce déficit de production d'électricité. Mais la gestion de la Société d'énergie et d'eau du Gabon est aussi indexée. Elle est au cœur d'un scandale de détournement. La direction a été limogée par la junte au pouvoir la semaine dernière. Une nouvelle administration est mise en place dirigée par Jean Liévin Idundu Mamfumbi qui a été installé hier. Yves Laurent Goma.
L'électricité vient de se couper au PK10. Michel Didier Kobe vient aussi de démarrer son groupe électrogène.
Il supporte toutes les charges à la maison. J'ai un frigidaire, un congélateur, un téléviseur, des ventilateurs. Tranquillement, il supporte.
Enseignant au lycée technique, il a investi environ 250 000 francs CFA.
Le réservoir a une capacité de 7 litres d'essence. Donc, plus les coupures varient entre 2 et 4 heures, c'est largement suffisant.
Mais tous les Gabonais n'ont pas les moyens de s'offrir un groupe électrogène.
La nuit, non seulement il y a la chaleur, il y a des moustiques, et c'est pas la joie. C'est l'enfer que nous vivons en ce moment.
C'est ce qu'on subit tous les jours. Et ça stresse les gens.
Après avoir installé le nouvel administrateur provisoire, nommé pour redresser l'entreprise pendant les 6 prochains mois, le ministre de l'Énergie, Jeannot Kalima, a rassuré les populations.
Avec toutes les dispositions qui sont prises, des facilités qui sont octroyées à la SEG par le chef de l'État, la SEG va très rapidement apporter des solutions à nos préoccupations.
Pour résoudre le problème, les militaires au pouvoir ont débloqué 100 milliards de francs CFA au profit de la SEG. Ils ont aussi mis à disposition des groupes électrogènes pour produire davantage d'électricité. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
On va terminer avec la colère des Maasai, riverains du parc du Ngorongoro dans le nord de la Tanzanie. Une délégation est aujourd'hui à Paris pour protester contre les expulsions alors que des centaines de milliers de touristes déferlent eux sur le Ngorongoro chaque année. Stéphanie Schuller.
Nous avons développé notre propre réflexion sur la conservation, affirme Joseph Olesgangai. L'avocat du peuple Maasai, de passage à Paris, dénonce la relocalisation forcée des membres de sa communauté pour laisser place au tourisme et à la chasse aux trophées au Ngorongoro.
Il y a 1 million de touristes. Combien d'eau utilisent-ils? Combien d'hôtels ont été construits pour les héberger? Combien de voitures circulent pour les emmener?
Des voitures pour lesquelles des routes ont été construites au sein même du cratère de Ngorongoro, site ultra protégé.
En 1976, il y avait une route dans le cratère. Aujourd'hui, il y en a 29. Les voitures y circulent toute la journée et ça stresse les animaux sauvages.
Les Maasai, eux, n'ont plus le droit de faire paître leur bétail à l'intérieur du cratère depuis 1974 déjà, avec des conséquences sur la flore et la faune qui y vivent.
Tous les animaux de petite taille, comme les antilopes ou les gazelles, ont presque entièrement disparu du fond du cratère. Le nombre de gnous est en baisse aussi. La seule espèce en progression, ce sont les hyènes. Elles peuvent facilement chasser de petits animaux parce que le cratère est maintenant couvert de buissons et d'arbustes. En conséquence, les animaux de petite taille s'enfuient vers les hauteurs, là où sont les Maasai. Là-bas, ils ne peuvent pas être chassés car le paysage est resté ouvert grâce au pâturage.
En Europe, Joseph Olesgangai plaide pour un retour des pratiques ancestrales du pâturage du peuple Maasai, seul acteur selon lui qui a une approche morale de la conservation du Ngorongoro parce que sa propre survie en dépend.
Arnaud Pontus, c'est à vous la suite des RFI Matin.